L'actualité des Alpes du Sud, alors que la 7e vague de Covid touche la France, les indicateurs sont aussi en hausse dans les Alpes du Sud.
Le département des Hautes-Alpes est celui qui présente le plus fort taux de positivité en région PACA. 2 personnes sont actuellement en réanimation. D'ailleurs, focus ce matin sur la réanimation à Briançon, un service qui ne dit pas son nom car il a été transformé depuis 2012 en service de soins de suite continue. Mais la pandémie aura chamboulé certaines décisions de l'ARS.
Le chantier d'installation d'une antenne relais à Champoléon bloqué hier.
Le collectif Zona Brebis s'oppose à ce projet de l'entreprise Free et demande moratoire et concertation.
Et c'est la goutte qui fait déborder le vase.
Alors que les exploitants agricoles sont confrontés à la sécheresse, ils estiment que les canaux d'irrigation du canal de Gap sont mal entretenus. Ils manifesteront demain matin dans la capitale douce.
Et le parc des Écrins doit rester un terrain de jeu responsable.
Et on s'en assure depuis 1992, avec plusieurs acteurs autour de la table, entre l'alpinisme, l'escalade et le canyonisme, une nouvelle convention a été signée hier, mais il s'agit plus de réajustement. Et puis ce matin, on vous emmène dans les étoiles de Saint-Michel, l'Observatoire, avec le centre d'astronomie qui fait son été astro, partez à la découverte de l'univers. Du côté du ciel, toujours, c'est toujours beau.
Oui, journée à nouveau bien ensoleillée sur nos deux départements, rares averses en montagne l'après-midi, sous les cumulus les plus développés, principalement dans le Kera, le long de la frontière italienne. Les températures très légères baissent sur les Hautes-Alpes, 27 à 32. Ça ira encore jusqu'à 34 sur les Alpes de Haute-Provence. Et donc à la une de l'actualité, cette 7e vague de Covid qui touche les Alpes du Sud.
Selon les derniers chiffres publiés par l'Agence régionale de santé PACA, les indicateurs sont en hausse et la part de l'activité Covid dans les urgences hospitalières continue de croître. Dans les chiffres, le taux de positivité est désormais de 26,7% dans les Alpes de Provence, 33% dans les Hautes-Alpes. C'est le taux le plus élevé au niveau régional, un département où actuellement 2 patients sont en réanimation.
Et à Briançon, l'hôpital des Escartons est doté d'un service de réanimation, mais qui ne dit pas son nom.
En effet, depuis 2012, c'est un véritable jeu de chaises musicales qui s'est mis en place. Il y a 10 ans, l'ARS décidait de ne pas renouveler l'exercice de service de réanimation à l'hôpital Briançonnais. Il est donc devenu un service de soins continus, une décision motivée pour des raisons humaines et donc, par extension, pour des raisons financières, selon Xavier Steele, médecin anesthésiste réanimateur à Briançon.
La différence entre un service d'unité de soins continus et un service de réanimation se fait, on va dire, à 2 niveaux. C'est le nombre de personnel paramédical qui est attribué par patient. En réanimation, on a plus de personnel qu'on a un service de soins continus. Et de ça découlent les thérapeutiques qui sont permises dans le service. Plus on a de personnel, plus on peut se permettre de faire des soins complexes qui nécessitent des surveillances plus approfondies. Et donc dans un service de réanimation, on a des patients qui sont plus lourds, plus graves que dans un service de soins continus.
L'équipe est aujourd'hui composée de 2 infirmières et d'un aide-soignant de jour, 2 infirmières la nuit avec le renfort occasionnel d'étudiants en formation. Il y a dans ce service de réelles perspectives de développement comme le projet d'informatisation commun avec l'hôpital de Gap ou la nomination de référents spécialisés sur différentes thématiques. Une évolution positive même si dans la pratique le service se rapproche bien plus de la réanimation qu'autre chose. La crise pandémique aura en effet chamboulé la réalité de l'établissement hospitalier et finalement, on est revenu par dérogation sur la décision d'il y a 10 ans. Boris Niremont, médecin urgentiste à Briançon depuis 2010.
On est assez loin des unités de réanimation qui sont soit Gap, soit Grenoble, soit Marseille. Donc dans les faits, en pratique, on a une activité dérogatoire où on fait de la réanimation en bonne intelligence avec la réanimation de Gap, qui est notre tutelle sur l'unité du GHT. Donc en pratique, on faisait déjà de la réanimation avant, on a les locaux pour le faire, on a des compétences qu'on essaie de garder pour le faire. Et donc pour nous, il y a des périodes comme le Covid où c'est indispensable de pouvoir faire de l'activité réanimatoire. Mais même en dehors de ces activités de Covid, les réanimations de Gap ou autour peuvent être pleines et ils peuvent nous demander de garder des patients. Et dans tous les cas, on essaie de garder nos compétences de façon régulière sur une activité de réanimation pour pouvoir l'exercer quand on n'a pas le choix, ce qui arrive régulièrement.
Des propos recueillis par notre correspondant Thibaut Durand. Bien que la 7e vague du Covid balaye actuellement le pays, aucun patient grave n'est entré en réanimation à Briançon depuis le début de l'année.
La communication peine à se faire dans le champsaur entre l'entreprise Free et le collectif Zone à Brebis.
Un collectif qui a bloqué hier les ouvriers qui intervenaient pour installer l'antenne relais à Champoléon. L'action de la ZAB monte en puissance. Un collectif qui demande qu'un moratoire soit réalisé quant à l'implantation de cette antenne. Il estime que les études utilisées par l'entreprise pour justifier de l'installation sont désuètes. Elles datent de 2016 alors que depuis, d'autres installations ont eu lieu, comme la fibre. La ZAB veut aussi qu'une campagne de mesures d'exposition d'ondes soit menée. Depuis 6 ans, ce projet d'implantation est dans les cartons. La gendarmerie est intervenue sur place, mais les ouvriers avaient déjà quitté les lieux suite à cette action.
On reste dans la gendarmerie avec cette gendarmerie plus écologique dans le Champsaur.
Et oui, on patrouille à vélo. Une idée originale mise en place depuis ce mois de juillet. Les militaires grimpent chaque jour sur leur VTT assistance électrique pour arpenter les sentiers entre les gendarmeries de Saint-Bonnet et de Pont-du-Fossé en passant par les villages de montagne. C'est original, c'est vert et ça permet un échange avec la population des hameaux isolés et la sécurité des estivants qui fréquentent les points d'eau.
Autre sujet qui boue aujourd'hui, c'est l'eau. L'eau qui boue dans le Gapençais avec le ras-le-bol des agriculteurs.
Ils manifesteront demain matin à Gap à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Alors que c'est la sécheresse et la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les exploitants, ils estiment qu'il y a trop de gaspillage dans la gestion du canal de Gap. Trop d'eau se perd. Avant de payer les pots cassés, réparer les pots percés, c'est ce qu'ils disent. Ils demandent un meilleur entretien des canaux d'irrigation. Le rendez-vous est donc donné demain matin 8h45 au rond-point du sénateur.
Le parc national des Écrins veut rester un terrain de jeu responsable.
C'est en 1992, donc il y a 30 ans, qu'une convention pionnière en montagne réunissait autour de la table les acteurs de l'alpinisme, de l'escalade et du canyonisme. L'objectif était de construire une vision commune de ce que devait être l'équipement des nouvelles voies ou le rééquipement des voies anciennes. Depuis 30 ans, le dialogue n'a jamais cessé entre le parc, les fédérations sportives, les guides de montagne ou encore le PGHM. Des liens qui se sont une nouvelle fois consolidés hier avec une nouvelle convention signée à Saint-Christophe-en-Oisans. Ce sont plus des réajustements que de véritables chamboulements, même si dans les nouveautés, on peut pointer le permis d'explorer pour les ouvreurs sur un secteur précis du parc. Un parc dont la protection de la nature est l'une des raisons d'être. Pierre Commanville, directeur du Parc national des Écrins.
Il y a 30 ans, quand on a conçu cette convention, les glaciers permettaient encore d'accéder à des voies historiques de façon assez facile. Et puis, l'accès aux glaciers ne demandait pas particulièrement d'équipement spécifique du fait des effets du changement climatique. On a été contraint d'autoriser l'équipement de voies sur des zones de retrait glaciaire qui sont souvent beaucoup plus difficiles parce que lissées et rabotées par les glaciers, ou bien d'autoriser la mise en place d'échelles ou de barreaux pour descendre sur les glaciers. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on s'est ajusté depuis 30 ans. Et puis je dirais, il y a eu aussi une réflexion très en profondeur de la communauté de montagne. On a appris à conserver la qualité des voies comme les ont trouvées les ouvreurs d'il y a maintenant plus d'un siècle, hein. On va bientôt fêter les 150 ans de l'ascension de la Meije. Ça fait plus bientôt 200 ans qu'on plante des pitons dans le massif des Écrins.
Les équipements pour la pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canyonisme au cœur du parc national sont dépendants des financements publics. Fort heureusement pour les professionnels, le développement de nouveaux partenariats avec les collectivités locales, à l'instar de la Grave ou de la communauté de communes du Pays des Écrins, permet une mise en place et un entretien.
Et après 2 ans d'absence, le Trade-in Festival revient à Ambre.
Ça commence aujourd'hui jusqu'à samedi, une édition gratuite pour les moins de 12 ans en raison de la capacité réduite, limitée à 1000 personnes. C'est intitulé Comeback, le nom est bien trouvé, il se veut être un retour aux origines en s'installant dans les jardins du rock. De nombreux artistes se produiront, notamment Deluxe, groupe aixois nationalement connu. Si les billets peuvent être achetés sur le site, l'association organisatrice Kaya conseille aux festivaliers intéressés d'acheter dès maintenant leurs billets moins chers en pré-vente. Notez que pour limiter son empreinte écologique, le festival Embruné a décidé d'utiliser des matériaux lavables et réutilisables ainsi qu'un générateur qui fonctionne à l'énergie solaire.
Galaxies, nébuleuses, amas d'étoiles, cet été, il faudra lever les yeux au ciel.
Direction le Centre d'astronomie de Saint-Michel, l'observatoire qui fait son été astro, une édition qui sera rythmée comme chaque année par de nombreux rendez-vous pour partir à la découverte de l'univers. Et avec l'ouverture du planétarium de Haute-Provence, un nouvel événement fait son arrivée, le spectacle Découverte du ciel et des exoplanètes. La première exoplanète a été dénichée en 1995 à l'Observatoire de Haute-Provence, justement. Michel Mayor et Didier Queloz, les deux astronomes suisses, ont obtenu le prix Nobel de physique suite à cette trouvaille. Fabien Marquet, directeur du Centre d'astronomie de Haute-Provence.
On a collaboré avec l'Observatoire de Haute-Provence pour préparer une séance de planétarium vraiment dédiée à cette découverte qui a eu lieu en 1995 de la première exoplanète. Donc on explique tout le travail qui a été effectué. Et on parle des découvertes qui ont eu lieu depuis 1995. C'est à peu près 5000 exoplanètes qui ont été découvertes. Donc voilà, on a une session d'une durée d'une heure qui est vraiment dédiée à ce sujet. Tous nos rendez-vous au Centre d'astronomie sont encadrés, entre guillemets, par un médiateur scientifique. On a très peu de sessions qui sont préenregistrées, qui ont vraiment à garder ce contact en direct avec le public, ce qui nous permet justement de répondre aux questions en direct.
Des conférences, des soirées découvertes ou encore des projections sont proposées tout l'été. Et vous pouvez retrouver le programme complet sur le www.centre-astro.com.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.